Bonjour. Pour un produit millénaire et dont l'une des qualités est de se bonifier avec le temps, on pourrait croire que le vin échappe au phénomène de mode. Et pourtant, les vins du Jura ont le vent en poupe. La Savoie s'exporte sur les plus grandes tables. Le Languedoc semble être à son apogée et on le trouve sur les cartes des restaurants parisiens branchés, le plus souvent dans sa version nature. Voilà au passage une autre tendance du moment. À ce petit jeu, les régions historiques du vin, en France citons par exemple la Champagne et Bordeaux, semblent payer leur antériorité. Connue et reconnue dans le monde entier, ces terroirs voient leur popularité baisser et même faire l'objet de critiques systématiques, voire d'un véritable désamour. Mais quoi ? Aurait-on oublié dans ces régions comment faire de bons, de beaux et de grands vins ? Les goûts auraient à ce point changé qu'on ne pourrait plus apprécier ce qu'on a adoré ? Et surtout, le succès des uns doit-il passer par le reniement des autres ? Sans angélisme aucun, car les critiques peuvent être justifiées, que le succès conduit parfois à l'immobilisme avec les conséquences notamment environnementales que l'on connaît, c'est ce qu'il nous appartient de dénouer aujourd'hui. Ce 53e épisode s'intitule « Halte au Bordeaux bashing ». Bienvenue dans la Terre à boire.
De retour en studio donc pour parler encore de Bordeaux, de cette grande région autour de l'estuaire de la Gironde. Bordeaux, c'est immense, c'est très renommé et prestigieux, c'est complexe, donc il nous faudrait peut-être une saison entière pour en parler. On va quand même le faire en deux émissions. On a passé un super moment avec Vincent Rapin et sa dame de 11h, qui est un vin, qui est aussi une fleur, mais qui était surtout superbe vin. On continue dans le Bordelais avec Laurent Delceau.
Bonjour.
Avec Patrice Defay.
Bonjour.
Avec Florence Aragoni.
Bonjour.
Et avec notre ami vigneron en Beaujolais. Salut Philippe.
Salut à tous.
Nous avons dans nos verres un vin que tu as conseillé. Alors c'est rigolo parce qu'on est à distance, tu es dans ton Beaujolais et on est à Paris, mais on a la même bouteille qui nous a été livrée. C'est le moment d'en parler par les caves Pur Jus.
Ouais, c'est cave pur jus, donc c'est vachement sympa, en fait, de ce cave en ligne, un bon petit gars breton, qui est du côté de, dans le 56, je crois, et qui s'appelle Téguen, et qui a une sélection incroyable en vin, bon, alors, d'abord en vin nature, hein, je pense que c'est 95% de son offre, hein, donc ça va du vin nature, on va dire, je sais pas, classique au vin nature un peu bien barré.
On a reçu dans le colis, il y avait une petite carte. Et j'aime beaucoup, c'est indice rock'n'roll du vin conventionnel,
voilà,
toujours
ça,
droit
exactement.
Au jus naturel, parfois punk. Et
voilà.
J'aime beaucoup, il y a donc 5 petites étiquettes qui recollent sur la cape de la bouteille.
Donc
là, on est sur un conventionnel. Ma belle-mère ne sera pas perturbée dimanche. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir ma belle-mère commence à se poser des questions. Ou alors ma belle-mère ne tient plus sur sa chaise, ou ma belle-mère quitte la table et claque la porte, ou alors le pire du pire, c'est une roulette russe entre aficionados. Je trouve ça assez sympa.
Quel est ce belle-mère bashing insupportable.
Ça a été plutôt bien fait, et c'est vraiment marrant. Moi, j'ai discuté un peu avec Téguen au téléphone, et on sent que c'est un vrai passionné. Et puis donc en plus de cette petite de ce petit guide donc sur
il y a une petite fiche sur le vin lui-même.
Il y a une petite fiche sur le vin lui-même qui raconte un peu l'histoire du domaine, l'histoire du vigneron, comment ça a été vinifié, sur quel terroir. C'est super bien foutu, c'est un truc que vous pouvez garder et collectionner, et puis pour ressortir quand vous faites des quiz ou des trucs comme des soirées, des animations comme ça, c'est marrant.
Ça, c'est pour faire concurrence aux cavistes, hein. C'est quand même très... Internet vous apportera le petit plus que vous apportez habituellement à votre caviste, qui était la petite histoire au sujet du vin, qui vous prévenait un petit peu si c'est bon, vous étiez un peu dans les vins un peu classiques ou si vous sortiez des sentiers battus. Et là, il vous fait concurrence, ce salaud.
De quel vin parlons-nous ?
Alors là, du coup, on parle d'un vin qui s'appelle l'Orage, A-U-R-A-G-E.
L'apostrophe A-U-R-A-G-E.
Oui, c'est ça, voilà, L'apostrophe. C'est un vin qui, C'est un vin qui a été donc vinifié par un monsieur qui s'appelle Louis Midjaville. On est en côte de Bordeaux, Castillon. Donc on n'est pas très loin en fait de Saint-Émilion et en fait on parle d'à peu près une vingtaine d'hectares près d'en fait de grands climats, enfin de grands climats de grands crus Saint-Émilion. Alors, ce qui est intéressant en fait avant de parler en fait de ce vin-là, c'est de parler un peu des Midjaville, parce que c'est une dynastie de vignerons vinificateurs qui sont un peu mythiques à Bordeaux et qui sont un peu restés un peu en marge ou un peu compris le système un peu à contre-pied. En fait, ça commence avec François, donc le père de Louis Midjaville, qui lui en fait a repris le château Tertre Rotteboeuf à son père donc en fait en 71. Tertre Rotteboeuf en fait c'est un Saint-Émilion et c'est surtout ce qui est très amusant en fait c'est un Saint-Émilion en fait qui à l'aveugle a battu maintes et maintes fois en fait des grands crus classés. Et je pense que ça a dû faire enrager plus d'un, sachant qu'en plus François Midjaville est quelqu'un d'assez discret, très cultivé, très érudit, très focalisé sur ses vignes et dans son petit monde, et n'a jamais voulu en fait participer à la grand-messe du classement avec les Haussonne, les Cheval Blanc, mais à l'aveugle, on compare ces vins, on compare Tertre Rotteboeuf facilement à ces grands vins réputés là. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant dans la figure de Midjaville, eux, leur cépage adoré, c'est le Merlot, quoi. Alors forcément, évidemment, parce que en Saint-Émilion, on est sur quand même des dominantes Merlot. Et donc en fait c'est Midjaville, c'est une pâte et puis c'est surtout une façon d'élever les vins avec des fûts qui sont très peu beaux, très légèrement brûlés, une tonnellerie qui s'appelle Radou en Charente-Maritime et qui fait des très belles barriques et puis des élevages longs. Voilà, ça c'est un peu la touche, c'est un peu la touche Midjaville. Et donc lui, Louis, qu'on appelle Loulou dans le milieu, en fait, il a pris un peu un jour son envol de son côté parce que il voulait faire sa vie. Et en 2007, donc il a repris un domaine qui s'appelle le Château Cadet et qu'il a renommé en fait l'orage. Donc à quelques rangs en fait d'un grand cru Saint-Émilion qui s'appelle Valandreau, qui est un des grands.
On connaît tous, c'est le plus réputé des vins de garage de Saint-Émilion.
Vin de garage.
Vin de garage parce que ouais. C'était une toute petite production et que l'idée c'était que le gars il faisait sa vinification dans son garage. D'accord. Donc vin de garage.
Voilà, exactement.
Qu'est-ce que vous dites de ce l'orage ? Alors, c'est un Merlot au Cabernet Franc et pourtant, il est très différent du Merlot au Cabernet Franc qu'on a dégusté dans l'épisode précédent.
Cabernet Franc ou Cabernet Sauvignon ?
Cabernet Franc.
Cabernet Franc. Non, c'est un Cabernet Franc.
Celui de Vincent Rapin aussi, c'était Merlot et Cabernet Franc, ouais, si j'ai bien noté.
Okay. Il y a une dominante, Merlot. Est... Ouais. On sent beaucoup plus le côté Merlot capiteux, travaillé en bois, etc.
Et puis très rond, très rond. Surtout.
Rond, mocha, etc. Donc c'est plutôt l'expression, on va dire, plus classique du Merlot.
Je trouve que c'est au nez, on sent tout de suite la puissance, en fait, la puissance de ce vin, le côté très épicé et fumé.
Moi, j'ajouterais, on sent beaucoup la pâte Midjaville quand même. Le côté velours en bouche, avec le côté un peu des épices douces, cacao, cannelle, muscade.
Ouais.
Café, Laurent. Mocha.
Oui, on vient de tout dire. Ouais, moi j'aime beaucoup. Effectivement, c'est très 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 flatteur, très flatteur au nez. Mais bon, on est quand même là dans ce qu'on attend.
On est dans le canon. Là.
On est dans ce qu'on attend d'un vin de Bordeaux. Quoi.
Le canon bordelais, exactement. C'est ça.
Plus velours et plus souple et peut-être plus facile à boire de ce qu'on attend d'un Bordeaux quand même.
Alors ce que j'apprécie énormément dans ce vin, c'est que on sent que le bois en fait est présent. Mais il est juste là pour soutenir en fait le vin. Il tient sa place, donc il est discret. C'est Je trouve que on sent vraiment ce côté, enfin le côté toasté mais très subtil. Idem pour le côté vanillé, c'est présent mais c'est pas pesant, c'est pas envahissant. C'est juste là pour soutenir le vin et puis pour l'accompagner.
C'est pas envahissant, mais quand on est à 14,5 quand même, c'est un vin riche quoi.
Moi, je trouve pas que ce soit pesant. Mais je trouve quand même que c'est limite envahissant malgré tout, hein, Philippe. Hein. Moi, je trouve que il y a vraiment une puissance du bois là où on se dit bon ok, c'est un 2016, donc c'est un vin très jeune. Hein, il faut lui donner ce crédit là, c'est que c'est un vin très jeune.
Ça va se fondre un petit peu.
Et que ça va sans doute se fondre avec le temps et qui est quand même malgré tout très très agréable à boire aujourd'hui.
Hein, je
m'excuse, hein, j'aurais fait goûter la Dame de 11 heures, c'est sur la fraîcheur et donc du coup tout d'un coup.
C'est ça qui est intéressant.
Un peu plus boisé.
Non, mais c'est deux expressions du Merlot qui sont hyper différentes.
J'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut quand même admettre que là, on est quand même sur un vin où la présence du bois est
manifeste.
Forte,
quoi,
est forte.
Moi, je suis pas. En fait, je suis pas là-dessus. Je suis pas certain parce qu'en fait,
un débat.
C'est marqué différemment. C'est marqué sur des épices douces.
Oui.
C'est vrai qu'on peut l'avoir sur des grands crus, marqué beaucoup plus avec
on
des tanins beaucoup
bois.
Plus ras, qui râpent plus.
J'ai goûté quand même des Bordeaux qui étaient bien plus boisés et de façon bien plus putassière que ça quand même.
c'est très velours, c'est très charmeur et c'est très.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces deux expressions de Bordeaux et de Merlot très différentes, alors qu'on n'est pas loin du tout, hein, parce que Castillon, Côte de Bordeaux et Saint-Émilion, on est juste à côté.
Ouais.
Donc on n'est vraiment pas loin. Le Merlot, pour rappel, c'est quand même le cépage numéro 1. C'est 58% de l'encépagement à Bordeaux, 69 000. Ouais. Hectares pour 117, pour les affinités de chiffres, peu importe. Mais ces deux expressions très différentes et hyper intéressantes, et le Merlot reste le premier en volume de Bordeaux, et c'est vraiment le roi de la rive droite, et là on est encore sur la rive droite du côté de Saint-Émilion.
Oui, bien sûr, sur des sols argilo-calcaires d'ailleurs.
Et pour rappel, il y a toute une histoire de classement. Bordeaux, on ne l'a pas trop abordé, mais Saint-Émilion, c'est un classement à part. Alors, vous avez les grands crus classés A. Donc là, c'est une guerre dans laquelle est rentré. Enfin, Angélus et Pavie ont réussi à en rentrer en classé A. Totre Rotbeuf est en classé B. Donc c'est pour ça qu'ils sont. Il a battu des classés A, mais il reste classé B. Et classé B, du coup, je pense qu'ils sont 12, sauf erreur de ma part. Et après, on a tout un tas, une ribambelle de Saint-Émilion Grand Cru, qui sont pas classés A et pas classés B. Et là, il y en a 50 ou 60, je crois.
Grand Cru classé, parce que t'as Grand Cru et t'as Grand Cru classé.
Grand Cru classé, ouais.
En plus. Voilà.
Alors, je saisis cette perche, parce que là, vous êtes déjà en train de parler dans la mécanique complexe du Bordelais. on va justement parler de ça. Tu restes avec nous, Philippe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer les particularités du commerce dans le Bordelais, le système des classifications avec le classement 1855, vous en avez dit un tout petit mot. Il y a un système des primeurs également. Vous avez quelque chose à me dire et après on appellera quelqu'un qui est sur place et qui va pouvoir nous éclairer aussi.
Le système des primeurs, en gros, c'est quand on a dit que le système de Bordeaux, c'était un système marchand. Donc, on a des producteurs de vin, on a un certain nombre d'acheteurs et au milieu, il y a des courtiers. Chaque année, le prix de Bordeaux est moins fixé par la qualité du... Enfin, un peu fixé par la qualité du millésime que par, en fait, le marché. C'est-à-dire que c'est
l'offre et la demande.
Le prix, en gros, pendant la crise pétrolière, en 74, il y a eu un super millésime, il y a eu des prix de merde parce que c'était la crise, il y avait peu d'acheteurs. Donc, c'est un marché d'offres et de demandes entre des vendeurs, des acheteurs, qui sont des négociants répertoriés, qui eux-mêmes vont revendre ensuite. Et entre deux, il y a des courtiers qui donnent la qualité des différentes cuvées et aident à fixer le prix. Et ces négociants de primes prime acquéreurs, on va dire, vont ensuite revendre soit aux particuliers, soit à des cavistes, soit à différentes autres instances. Mais il y a un système effectivement de primeurs qui définit un prix économique, un peu lié à la qualité du millésime, beaucoup lié à la qualité du marché. Donc c'est vraiment une offre et une demande. Typiquement, quand les Chinois achètent pas, parce que les Chinois c'est 30% des achats de Bordeaux au niveau global, quand ils ont pas envie d'acheter, ce qui est un peu le cas en ce moment, les prix ont un peu tendance à baisser.
On le disait avec Vincent Rapin qu'il était un peu un ovni avec sa petite exploitation. Lui n'est pas dans ce marché de négoce, mais globalement Bordeaux c'est quand même d'abord un grand marché de négoce qui fait penser un petit peu à la Champagne où on a des viticulteurs qui proposent du raisin, des raisins qui sont achetés sur le marché pour être vinifiés dans des grandes maisons. On retrouve en Bordeaux les mêmes grandes maisons de luxe, LVMH, Gucci, voilà, les grandes maisons du luxe mondial qui achètent et qui possèdent des châteaux à Bordeaux, les mêmes qui possèdent des grands domaines en Champagne. Donc on est dans un système qui est assez loin du modèle vigneron du Jura.
C'est un peu différent parce que en Champagne, vous avez les vignerons qui vont produire du raisin et qui vont vendre à la grande maison. À Bordeaux, vous avez la grande maison, elle est propriétaire de ses terres. Donc, elle va employer des gens, mais ça ne va pas être des vignerons individuels qui vont lui vendre le raisin à la finalité. C'est quand même elle, sous la direction d'un chef des vignes, qui vont décider sur les 30 ou plus ou moins d'hectares. Aujourd'hui, on traite. Aujourd'hui, on taille. Aujourd'hui, on fait ci. Aujourd'hui, on fait ça. Alors que sur Champagne, le petit vigneron, il va faire à sa sauce dans les vignes comme il veut. Et après, il va dire, bah voilà, j'ai tant de kilos de raisins et je te les vends à toi, grande maison qui appartient à LVMH, qui peut être aussi propriétaire d'un grand château à Bordeaux. Mais c'est un petit peu différent.
Ok, merci pour cette précision. C'est un système, ce système bordelais. On a parlé de... Alors, il y a la partie commerce et il y a la partie vin. Et pour revenir à la partie vin, on a déjà évoqué le fait que ces caricatures, entre guillemets, du Bordeaux, boisé, puissant, tannique, tout ça, c'était quelque chose qui était certes toujours demandé sur le marché international, mais qui a fait l'objet, depuis une quinzaine d'années, de ce qu'on a appelé cette expression fameuse du Bordeaux bashing. Il est de bon ton de dire du mal de Bordeaux. Le Bordeaux serait beaucoup moins en vogue que précédemment. Vous avez un avis sur cette histoire-là?
Oui, enfin, moi j'ai un avis. En fait, enfin, tout le monde a un avis sur ce sujet quand on est un peu porté sur l'œnologie. Mais après, ce qui est le plus criant, c'est qu'il y a eu un sondage l'année dernière sur 35 sommeliers de grandes maisons et qui ont demandé leur coup de cœur spontanément dans les vins, et aucun n'a cité un seul vin de Bordeaux. Donc c'est vraiment institutionnel et c'est pas des vins de cœur. Donc Bordeaux touche au portefeuille, Bordeaux touche éventuellement à l'intellect dans les meilleurs expression de son terroir, mais touche pas vraiment au cœur. Donc il y a effectivement un problème, je pense, esthétique aujourd'hui de Bordeaux, et un problème de modernité de Bordeaux qui est réel. Mais c'est pas nous qui le disons, c'est les sommeliers qui le disent.
Voilà. Surtout, je pense qu'il y a le côté un peu uniformisant, en fait, de la façon dont les vinificateurs, en fait, ou les consultants tendent à ramener dans cette région, quoi. C'est-à-dire que moi par exemple, expérience personnelle, hein, j'avais fait un festival off pendant les primeurs à Saint-Émilion, où il n'y avait que les exposants, en fait, étaient que des vignerons, en fait, qui étaient coachés par Stéphane de Renoncourt. Et donc, tous les vins étaient bons, mais vous sentiez qu'il y avait quand même...
Ils se ressemblaient tous.
Ils se ressemblaient tous, quoi. Et donc, si vous voulez, à un moment, à chaque fois, vous dites aux vignerons, mais alors du coup, comment vous vinifiez, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre technique, expliquez-nous comment vous travaillez. Et en fait, le vigneron vous dit, ah ben moi, alors Stéphane, il me dit de faire ci, il me dit de faire ça, alors du coup, on fait comme ci, on fait comme ça.
Philippe.
Donc, vous dites, mais à un moment, pourquoi, en fait, vous êtes plus vraiment vigneron. En fait, vous êtes que des exécutants, quoi. Vous perdez en fait toute autonomie sur vos décisions.
Philippe, je te coupe parce qu'on va appeler quelqu'un qui est sur place, à qui on va pouvoir un peu poser ces questions autour de Bordeaux tel qu'il est aujourd'hui et surtout tel qu'il évolue. Je compose le numéro. Vous avez gagné la valise. Tu restes en ligne, hein. Normalement, on doit pouvoir avoir deux personnes au téléphone.
Allô ?
Allô, bonjour Mathieu, d'où mange ?
Oui, bonjour, bonsoir plutôt.
Bonsoir, comment ça va ?
Ça va, et vous ?
Bah écoute, ça va très bien, on est ravis de t'avoir. Mathieu Doumanche, tu es donc le rédacteur en chef, notamment en charge du numérique à Terre de Vin, magazine.
Voilà, rédacteur en chef adjoint,
du
magazine, et effectivement, je m'occupe... de toute la partie numérique de cette publication, le site web, les réseaux sociaux,
c'est comme
principalement.
C'est comme ça qu'on te voit régulièrement sur les réseaux. Je te présente un peu les amis autour de la table. Florence.
Bonsoir.
Patrice. Bonsoir. Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir.
et Philippe. Alors,
bonsoir à toute l'équipe.
Mathieu, donc je précise quand même que Tardevin, vous êtes basé à Bordeaux, vous faites partie du groupe Sud-Ouest, du grand groupe de presse Sud-Ouest, et donc toi tu habites Bordeaux, même si tu voyages beaucoup, ceux qui te suivent sur Twitter et ailleurs le savent. On fait donc un petit tour des vins de Bordeaux, on a dégusté quelques vins. On était en train de parler justement de un peu de... L'idée avec toi, ce serait d'évoquer un petit peu le mouvement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et quelle est la dynamique après avoir été vraiment l'épicentre du prestige viticole de la France, Bordeaux est depuis une dizaine d'années un peu la cible de pas mal de critiques. Ces fameux Bordeaux bashing qu'on lit dans tous les magazines de vin. En vrac, on reproche aux vignerons bordelais une course aux classements internationaux, notamment Parker, mais il y en a d'autres. Philippe nous en parlait à l'instant, l'influence vraie ou supposée des consultants, donc les Michel Roland, les De Renoncourt, qui disent, pour être bien noté dans les classements, voilà ce que tu devrais faire, toi, vigneron. Et du coup, on se dit, les vignerons, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils écoutent seulement les critiques? Je te fais la liste et puis après ce que t'en penses et ce qu'il en est de la réalité. L'autre aspect, ça on l'a un peu évoqué avec Vincent Rapin, c'est peut-être une certaine difficulté à embrasser la modernité qui dans le vin ça se caractérise plutôt, alors c'est vrai surtout chez les gens qui aiment le vin en France, mais du bio, de la biodynamie, des vins plutôt légers, plutôt frais. Là on vient de goûter deux vins qui sont du même assemblage mais avec vraiment des profils très différents, quelque chose de très léger, très buvable et quelque chose de beaucoup plus ample, puissant, un peu entre guillemets à la bordelaise. Et enfin je termine avec ces négociants, ces grandes maisons de luxe qui ont tendance à accaparer un peu le devant de la scène, qui sont vraiment concentrés sur l'export, et des vignerons qu'on voit moins. Voilà, c'est le reproche souvent qu'on fait à Bordeaux, c'est que les vignerons, on ne les voit pas, on voit des représentants, on voit des grandes maisons de luxe, et la figure du vigneron qui est si populaire quand on est en Languedoc, quand on est en Jura, quand on est en Loire, à Bordeaux, elle est moins présente. D'abord...
Ça fait beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup de choses.
Est-ce que sur le fond, d'abord, est-ce que tu penses que certaines de ces critiques sont justifiées? Quelles sont les critiques parmi celles-là qui sont justifiées? Et voilà, est-ce que Bordeaux bouge par rapport à ces questions?
Alors, je pense qu'en fait, Bordeaux a un souci d'image. C'est même pas d'image, c'est un souci de perception auprès de certains amateurs et auprès d'une partie du public. Moi, je commencerai par dire qu'il n'y a pas un vin de Bordeaux, il y a des vins de Bordeaux. C'est une région qui est quand même... assez vaste, c'est une région viticole historique, et essayer de résumer Bordeaux à un seul paramètre, une seule impression que l'on en a, parce qu'on aurait dégusté tel type de vin, parce que Parker, parce que les classements, parce que le prix, c'est déjà se mettre dans un corner. Je pense qu'il faut un peu élargir le panorama. Au risque de me citer moi-même, ce qui est pas un ego trip, mais en fait il y a quelques années j'avais été interviewé déjà sur ce sujet. J'avais comparé Bordeaux au cinéma américain, en fait, et il y a plein de gens qui pensent que le cinéma américain se résume au blockbuster avec beaucoup d'effets spéciaux et les explosions. Si je devais faire une analogie, on pourrait dire que les blockbusters, ce sont les grands crus classés très prestigieux et parfois hors de prix. Mais en fait, le cinéma américain, c'est pas que ça. Il y a aussi des films d'auteurs, il y a plein de genres différents, des comédies, des drames. Et Bordeaux ne doit pas se résumer à l'image que l'on en a. Et parfois, même des blockbusters, ça peut être très réussi. Donc, il faut un peu gratter derrière les idées reçues, je dirais. Et en plus, aujourd'hui, alors quand je dis ça, c'est vraiment parce que j'habite Bordeaux, alors je déguste évidemment plein d'autres choses que des vins de Bordeaux, mais il se trouve que je vis et je travaille à Bordeaux, donc ça me permet de voir au quotidien quasiment comment la filière se remet pas mal en question sur plein de sujets que tu as abordés précédemment. Et voilà, et du coup ça fait que je peux pas me... Enfin, on est assez bien placé à la rédaction de Terre de Vin pour savoir que Bordeaux ne peut pas se résumer à ça, cette image qu'on lui donne, qu'on en fait parfois.
Je fais une petite incise, on va dire bye bye à Philippe parce qu'il est requis chez son voisin vigneron pour aller boire des coups, si j'ai bien compris.
Un vrai sujet.
Surtout pour finir la bouteille de l'orage.
Ah oui, c'est ça. Ah, tu la rapportes.
De
Midjaville. Philippe, tu nous dis combien ça coûtait à la cave Pur Jus ton orage de Midjaville?
36 euros.
36 euros, d'accord.
Ce qui est, à mon sens, un très bon rapport qualité-prix. Je pense en plus, pour un 2016 qui est déjà buvable, dès maintenant, je pense qu'on c'est un vin qui peut se garder encore un paquet d'années. Il va encore se patiner. Alors effectivement, peut-être que le bois va encore un peu plus se fondre avec avec la garde, mais déjà je le trouve, je trouve vraiment excellent, avec une bavette et avec une bavette et puis des patates rôties.
J'ai vu ça sur Twitter, ça avait l'air pas mal.
Allez, va le faire goûter à tes voisins Beaujolais. Vas-y et bon courage dans les vignes.
Ouais, salut Philippe. Bien, à bientôt. Salut.
Oui Mathieu, donc il y a de la diversité derrière cette grande image.
Oui, bien sûr qu'il y a de la diversité.
Est-ce qu'à Bordeaux on a pris conscience de ce problème? J'imagine que oui. Est-ce que il y a une forme de stratégie, de nouvelle approche, notamment peut-être dans la communication ou même dans la façon de faire les vins? On a entendu par exemple Vinexpo, c'était il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Bernard Arnault, patron d'LVMH, annonçait que Château d'Yquem, le grand Château d'Yquem, allait passer en bio et carrément en biodynamie.
C'est l'annonce qui a été faite. Ouais. Et alors, je vais y venir. Mais avant, je voulais juste compléter ce que je disais. C'est que souvent le problème de l'image de Bordeaux, si tant est que c'est un problème, mais Bordeaux est d'un côté pris entre ces grands crus classiques, des Lafite Rothschild, des Moutons Rothschild, des vins que soyons honnêtes, peu de gens peuvent s'offrir désormais ou même déguster parce qu'ils sont devenus très chers. Ce sont des vins qui sont
inaccessibles.
Parfois même spéculatifs. Donc voilà, il y a d'un côté ça, et de l'autre côté, des vins qu'on trouve parfois dans les rayonnages de la grande distribution, des vins à bas prix qui sont pas toujours extrêmement qualitatifs. Et beaucoup de gens résument Bordeaux à ça, à l'un ou l'autre. Or, entre les deux, il y a quand même une gamme de vins extrêmement large, avec d'excellents rapports qualité-prix. On peut trouver des vins de Bordeaux, pas forcément sur des appellations ultra prestigieuses, mais si vous voulez, on pourra citer des exemples après. Vous avez dégusté un Castillon sur la rive droite, c'est une appellation où on trouve des pépites à 12 euros, à moins de 15 euros. En Bordeaux supérieur, dans les Graves, on trouve aussi ces choses-là. Donc en fait, entre les grands crus classés et entre l'entrée de gamme pas toujours hyper qualitative, on trouve des vins... On trouve des vins vraiment top, comme dans toutes les régions du reste. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, il y a deux choses. Il y a la prise de conscience stylistique, puisque, si j'ai bien entendu ce que vous disiez, certains reprochent à Bordeaux de faire des vins un peu too much, un peu trop sur l'élevage, un peu trop sur la concentration, etc. Et puis, il y a les questions ensuite environnementales qui sont tout à fait légitimes. La première chose, c'est effectivement, il y a pu y avoir chez certains châteaux bordelais des excès dans les années 90, début des années 2000, sur des excès de concentration, des excès d'élevage, des vins un peu trop boisés, un peu trop bodybuildés, comme le terme consacré. C'était certainement un effet de mode qui pouvait être influencé par un critique américain que tu as cité tout à l'heure, qui s'appelle Robert Parker, et qui a pris sa retraite.
Comprendre de ça, il faut regarder Mondovino, un film qui a environ 20 ans qui raconte
Mondovino,
tout ça.
Mondovino l'évoque très très bien, avec parfois la petite touche corrosive et ultra subjective de nos citeurs, que j'aime beaucoup, mais ça l'évoque, bien sûr. Et Parker a été très important pour Bordeaux. Après, il a été important pour le rayonnement des vins de Bordeaux à travers le monde, parce que quand tu avais une bonne note par cœur, c'était quand même l'assurance que ton vin se vende dans le monde entier. Après, Parker n'est jamais allé dire aux vignerons comment les vignerons devaient faire leur vin. Si certains ont essayé de suivre certaines techniques pour lui plaire, ça les concerne. En tout cas, ce qui est certain, et sans vouloir du tout dire du mal de ce critique qui a fait un boulot énorme sur les vins de Bordeaux, du moins, à partir du moment où Parker a arrêté de noter et déguster les vins de Bordeaux en primaire, tout de suite, il y a une bascule qui a été faite. Et on a l'impression que beaucoup de techniciens, beaucoup de vinificateurs, de vignerons, se sont réappropriés leur propre vin. Et depuis quelques années, on voit, et c'est très très palpable dans les vins de Bordeaux, un réajustement de style. On revient vers des vins moins extraits, moins boisés, et qui sont sur ce que les vins de Bordeaux auraient jamais dû cesser d'être, qui sont sur un côté buvable. Mmh. Alors, c'est le terme qu'on emploie un peu tout le temps, la buvabilité, mais c'est vrai que en fait, Bordeaux, ça, historiquement, c'était ça, quoi. C'était des vins qui
étaient... historiquement, c'était ça, mais on avait vraiment beaucoup dit que les vins de Bordeaux étaient des vins sur la garde. Et ouais. Quand ces vins n'étaient plus buvables pendant cette décennie, on va dire, on nous disait « Ah oui, mais c'est normal, parce que ce sont des vins de garde, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur la buvabilité au jour d'aujourd'hui. Attendez-les. » Et je vais prendre l'exemple du millésime 2003, parce que je pense que vraiment, c'est le millésime le plus marqué sur ce côté. En 2003, on nous disait « Voyez comme il est taillé pour la garde. » Donc on attend, en 2013, on nous dit « Bah oui, il faut encore le garder ». Et on est en 2018, il a 15 ans, et là, on a toujours ce bois super dur, super sec, cet alcool un peu brûlant. Et mais où est la matière? Où est le vin? Et on le retrouve pas. Il est comme maquillé derrière ce bois. Il est maquillé derrière cet alcool. Et on cherche le caractère du vin. Et moi j'ai le souvenir d'une dégustation, pas en primeur, mais très peu de temps après lors de la sortie, où j'ai eu l'occasion de goûter beaucoup de 2003 sur Bordeaux. Mais on passait de stand en stand. Et franchement. Où était la différence? On ne trouvait pas de différence. Pourtant, on était censé quand même avoir des différences parce qu'il y avait quand même plusieurs vins sur la rive gauche, il y avait quand même plusieurs vins sur la rive droite. Donc, on sentait vaguement une différence quand on passait sur d'autres qui étaient plus majoritaires Cabernet Sauvignon et que d'autres qui étaient plus majoritaires Merlot. Mais malgré tout,
Est-ce que 2003, c'était le paroxysme d'un système dont on est revenu depuis?
Je pense,
ce serait
parce
ça.
Je dirais pas que je suis une dégustatrice super fine et hors pair, mais sur ce millésime 2003, j'ai trouvé qu'il était très très difficile de trouver des différences d'un domaine à un autre et qu'ils étaient tous très marqués par l'alcool et très marqués par le bois.
Alors. Il y a le profil du millésime aussi qui entre en jeu. C'est que 2003, comme vous le savez, c'était un millésime de canicule. Il a fait extrêmement chaud. Je pense que ça n'a pas été simple à conduire. Et effectivement, encore à cette époque, peut-être que beaucoup de techniciens dans les châteaux avaient des réflexes d'aller chercher de la matière, d'aller chercher de la couleur, d'aller chercher peut-être de l'élevage, et que ça ne coïncidait pas forcément avec le profil du millésime. Après, il y a toujours un storytelling, ça c'est aussi l'effet primeur à Bordeaux, autour de chaque millésime. D'ailleurs, on s'est beaucoup moqué des Bordelais aussi, parce qu'à chaque fois, c'est le millésime du siècle.
On raconte donc, toujours une histoire autour du nouveau millésime.
Voilà, et par exemple, il y a l'histoire de Bordeaux est faite de tiens, ce millésime est génial, et finalement, avec la durée, il y a des millésimes qu'on a un peu moins considérés et qui se révèlent bien plus sympas à déguster.
Ouais, mais alors on avait millésime 2000, c'était millésime du siècle parce que c'était 2000. On a eu 2003, il faisait très chaud, donc c'était censé être millésime du siècle aussi. On avait 2005 qui était plus équilibré sur chaleur, fraîcheur, mais donc du coup c'était millésime du siècle.
Tiens, c'est une bonne question, ça.
Je suis quand même le pauvre néophyte là-dedans. Il se dit, mais faut que je mette quoi dans ma cave, parce que tous les millésimes, c'est millésime du siècle, ils sont tous super chers.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup sur les 10 dernières années?
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pense que déjà Bordeaux, c'est pas quelque chose d'immuable. C'est un vignoble qui, comme beaucoup d'autres, se remet beaucoup en question sur les techniques, que ce soit à la vigne, au chai, et je pense que pour côtoyer vraiment de près ces gens-là qui font du vin ici à Bordeaux, on n'a jamais été aussi précis dans les connaissances viticoles et vinicoles qu'aujourd'hui. Donc même en l'espace de 10 ans, il y a des millésimes qu'on ne referait pas pareil. Donc 2003, c'est sûr qu'on ne travaillait pas en 2003 à Bordeaux comme on travaillait en 2019. C'est déjà ça. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire sur les grands millésimes récents? Vous avez dégusté un 2016 avec l'orage. En 2016, c'est hyper jeune, hein, mais pour moi, 2016, c'est le plus grand millésime à Bordeaux. Et là, c'est sans... là, il n'y a pas de storytelling. C'est parce que tous les éléments, tous les dates étaient alignés pour faire un très grand millésime qui est prêt à boire assez vite et qui va se garder normalement très longtemps.
Je reprends juste par rapport au Bordeaux bashing. Vous disiez qu'il y a beaucoup de blockbusters. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de festival de Sundance en fait à Bordeaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. Je trouve que les grands crus classés, la communication sur les primeurs prend beaucoup de com. Et du coup, on ne parle pas assez ou pas suffisamment justement du super bon rapport qualité-prix. Je crois que c'est Genesis Robinson qui disait OK, Bordeaux c'est cher, mais c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix du monde quand vous connaissez les domaines. Sauf que ces domaines-là, on les connaît assez peu, finalement.
Il faut les chercher.
Il faut les chercher, et du coup, il faudrait qu'il y ait un festival de Sundance, encore une fois. C'est-à-dire un truc du cinéma indépendant, parce que tous les blockbusters, on les connaît. En plus, il y a la surcommunication de, globalement, beaucoup les journaux, parce que c'est le système de primeur, alors qui est un système marchand, et il faut le respecter, parce que ça fait vivre plein de gens, et c'est super. Mais du coup, tous les autres sont un peu dans l'ombre du système, des primeurs, etc. Et qu'un mini festival de Sundance, ça pourrait être sympa pour Bordeaux pour connaître ces super vignerons qui sont plus des vignerons d'ailleurs que des grandes maisons. Et il faut rendre aux grandes maisons ce qui est aux grandes maisons. C'est super d'avoir des super belles bouteilles en cave qu'on va boire dans 10, 15 ans. Après, il y a une espèce de pression aussi de se dire, oh là, putain, j'ai une super bouteille, si je la bois au bout de 2 ans, c'est une catastrophe, c'est du gâchis parce que j'ai mis 100 balles dans la bouteille et si je la bois au bout de 2 ans, c'est du gâchis. Ce qui est vrai. Ce qui est très très vrai, mais du coup, à quand le festival de Sundance à Bordeaux, quoi?
Bah après, ça dépend si tu parles de, de tutoyer, mais ça dépend si tu parles de d'événements professionnels ou d'événements grand public. Par exemple, les primeurs, c'est une grande caisse de résonance parce que pendant une semaine, voire plus, il y a tous les acheteurs et les critiques vins du monde entier qui viennent à Bordeaux. Donc, et en fait, le grand public, lui, il n'est pas du tout au contact de ça. En revanche, il y a plein de dégustations aujourd'hui à Bordeaux.
C'est le festival de Cannes, hein, un peu.
Notamment organisé par le Terre de Vin, qui donne à découvrir ces vins-là. Quoi. On n'a pas plus tard que la semaine dernière. Moi, je ne fais pas de l'autopromo, mais on a pendant Vinexpo, on a fait plusieurs dégustations pour le grand public, et notamment une dégustation qui s'appelle Les Inclassables, et qui réunit des vins de Bordeaux qui ne sont ni crus classés, ni crus bourgeois, qui ne relèvent d'aucun classement, mais qui sont des bons représentants de Bordeaux. Et là, on va trouver on va trouver des castillons, on va trouver des graves, on va trouver des choses. Et voilà, et ça nous, tant que médias et organisateurs d'événements, on fait notre part pour mettre le projecteur sur ces vins-là. Après, c'est aussi le boulot des cavistes, c'est aussi le boulot des sommeliers. Il faut qu'aussi, ils reviennent à Bordeaux. Et ça, c'est un sujet.
Alors, profitons-en justement, du coup, parlons. Est-ce que toi, tu as des coups de cœur, quelques pépites comme ça à nous proposer? Peut-être un rouge, un en blanc, deux en rouge, deux en blanc, quelque chose comme ça
Des coups de cœur, j'en ai plein. j'en ai plein. Alors, moi, il se trouve qu'à Bordeaux, on s'est un peu spécialisé sur différentes zones, et moi, je tourne plutôt sur la rive droite de Bordeaux. Donc, ce sont les vins et les appellations que je connais le mieux. Aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve que c'est aussi cette l'une des régions où ça bouge beaucoup. Souvent, les domaines sont plus petits que dans le Médoc. Donc, il y a une capacité de rebond et de remise en question qui est vraiment très intéressante. La Haute des Beautés, je pense aux frères Karl et Yann Todeschini qui sont... Alors, ils ont une propriété familiale qui s'appelle le château Mango, qui est enceinte des millions grands crus. Ils ont aussi un château à Castillon qui s'appelle La Brande. Ils sont en bio.
Oui, mais c'est pas facile à trouver. C'est tout petit.
C'est pas si petit que ça. Hein. Ça se trouve et ils sont bien. Et je peux te dire qu'ils se démènent pour être présents chez les cavistes.
Oui, je confirme. J'ai du château Mango à 500 mètres de chez moi à Paris, donc je confirme.
Ouais, et ils sont très actifs et c'est vraiment c'est des vignerons qui réfléchissent beaucoup. Là, ils sont partis sur la biodynamie. Ils ont commencé à faire un rosé. Là, depuis l'année dernière, ils font un blanc. Ils sont super, quoi. Ils font un boulot vraiment top. Ils font beaucoup de réflexions sur l'élevage des vins, sur les contenants, que ce soit des barriques, que ce soit des amphores, etc. Donc ça, vraiment, ça...
Château Mango.
Ça réfléchit pas mal. Château Mango, voilà, c'est l'un des premiers qui me vient à l'esprit, mais je pense aussi à Anne-Laurence Chadronnier qui a le château Marceau en Franc-Côte de Bordeaux. Franc-Côte de Bordeaux, c'est une appellation qui n'est pas forcément très médiatisée. Et pareil, c'était pas très loin de Saint-Émilion. T'as des châteaux, t'as des domaines qui font du très bon vin. Alors là, on est plutôt sur du Merlot, mais pareil, c'est un domaine qui est en conversion bio, qui fait des vins très séduisants, très plaisants, et pas du tout dans le style bordelais qu'on pourrait attendre. Et je pense aussi au château Tirpé dans l'Entre-deux-Mers. Si on va sur la rive droite, il y a Pébonhomme les Tours à Blaye, qui est super bon. Enfin, j'en ai pas mal des coups de cœur. Et voilà, d'ailleurs, on est sur des vins qui ont des prix accessibles, qui ne sont pas sur des appellations extrêmement rutinantes et qui méritent d'être vraiment découverts.
Est-ce que tu penses, Mathieu, que c'est la fin du Bordeaux bashing? On va arrêter de parler de cette notion parce que Bordeaux s'est transformé et qu'il faut juste un peu... Il y a une petite inertie pour que le monde du vin se retourne vers Bordeaux en disant « Ah oui, en fait, les critiques qu'on a adressées, ça y est, elles commencent à être un peu passées de mode.
Bah, » Je pense qu'après, il faut... Le Bordeaux bashing, il était dû à quoi? Il était dû à peut-être une certaine perception des vins de Bordeaux, de leur prix très élevé. Aujourd'hui, il y a des vins, que ce soit clair, leur prix ne baissera pas. Le top 10 de Bordeaux, que ce soit Pétrus, Lafite...
Bien sûr, mais comme en Bourgogne.
Leur prix ne baissera plus. Et voilà, il suffit bien de mentionner la Bourgogne, parce qu'on tape souvent sur les prix de Bordeaux, mais la Bourgogne est chère aussi. Mais alors, en revanche, dans les grands crus glacés, il y a quand même des... À condition, évidemment, qu'on puisse un peu de temps en temps se faire plaisir et casser un peu sa tirelire, pour autant se ruiner, mais on peut trouver des crus classés qui sont encore à prix accessible et des choses très très bonnes. Allez, un exemple comme ça, Château La Clotte, Saint-Émilion, grand cru classé, ça appartient à la famille Vautier, qui est à Ozone. Bon, personne ne va réussir à s'acheter une bouteille d'Ozone, ça c'est très très dur. En revanche, un Château La Clotte, on peut. Et c'est conduit avec la même exigence, la même précision, c'est juste que c'est un terroir un peu moins mythique. Voilà, je pense à des choses comme ça. Ouais. Moi, j'ai un peu perdu le fil du coup de ta question.
Non, c'était bien ça. C'était
oui, il y a des choses intéressantes. Là, juste pour info, on est en train de boire un Sauternes, hein, pendant qu'on se parle. On prend un Clos Peyraguet 2011.
Oui.
Une difficulté de Bordeaux, c'est que parfois aussi, c'est des vins qui peuvent être un peu exigeants. C'est vrai que c'est pas vraiment la mode des liquoreux en ce moment. Non, pas spécialement.
Mais pauvres, on est
à 30, on est à 30 euros. C'est pas non plus... hors de
non,
prix.
Non, quand je dis les pauvres, c'est que les Sauternes, comme les autres vins liquoreux d'autres régions,
souffrent.
Ont la peine.
Ouais, c'est clair.
Ont la peine, bien sûr.
C'est clair. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bien?
Ah oui, je suis d'accord.
Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses un petit peu difficiles à Bordeaux sur le côté un peu classique. Et c'est vrai que comme on est un peu dans l'excès de modernité, de la buvabilité, de l'immédiateté, c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu plus exigeants. Et donc, faut être peut-être un peu plus néophile, on va dire, pour boire un liquoreux, pour attendre 10-15 ans une évolution. Parce que c'est vrai que les grands crus, ça se révèle aussi. Moi, une grande émotion, c'était... J'en ai pas bu beaucoup, hein, mais j'avais réussi à choper un Angelus 94 juste avant qu'il soit un grand co-classé. Et c'est vrai qu'au bout de 15 ans, c'est des choses qui évoluent de manière magnifique, quoi.
Et c'est là aussi que ça se révèle. Les grands vins de Bordeaux, c'est là qu'on voit la différence. Et quand on a le privilège de déguster de vieux millésimes, là, c'est là qu'il se révèle le mieux.
Ouais, oui, mais pourquoi c'est si difficile de boire des très grands ou les grands hein, de Bordeaux dans les années 2000? Et 90 même un petit peu, mais surtout dans les années 2000. Et pourquoi c'est si bon dans les années 80, dans les années 70? Pourquoi c'est tellement...
Je crois qu'il y a eu, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a eu quelques excès, encore que dans les années 90, aujourd'hui, t'ouvres un Bordeaux en 1998, qui était un très beau millésime, tu vas te régaler. Et puis n'oublions pas qu'il y a certains qui ne sont jamais tombés dans les excès qu'on décrivait tout à l'heure. Il y en a qui ont continué à toujours à faire des vins un peu dans le même style et qui du coup parfois on redécouvre aujourd'hui. On se dit tiens, hein, celui-là, mais il a toujours été bon, il a toujours été assez classique, mais jamais too much. Et pour ouais, pour revenir à cette question du Bordeaux bashing, c'est sûr que bon, il y a eu la question du prix, il y a eu la question aussi, ben Bordeaux s'est un peu fait attaquer sur le front environnemental. On en a pas, enfin, tu l'as évoqué tout à l'heure à propos du passage nickel en bio, mais il y a eu des émissions, notamment celle de Lucet, qui ont fait voilà, qui ont tapé très fort, et je pense que ça a réveillé un peu la filière, quoi. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale à Bordeaux que on ne peut pas continuer à maintenir des pratiques qui ont été celles de l'agriculture productiviste post-Seconde Guerre mondiale.
Et donc, on était avec Vincent Rapin au téléphone, qui lui est un peu atypique sur Bordeaux, puisqu'il a juste 1,20 hectare de vigne. Il nous disait qu'il y avait peut-être aussi, dans cette façon de voir la vigne, de travailler la vigne, le problème de l'éloignement. C'est-à-dire que celui qui est propriétaire et qui prend les décisions, bah, c'est peut-être pas celui qui a le plus les pieds dans la vigne. Et que donc, cet effet d'éloignement donnait ce côté qu'on peut prendre des décisions tout là-haut, en amont, qui sont un petit peu différentes de ce que celui qui a les pieds dans les vignes, qui va traiter et qui va s'occuper des vignes, aurait vu d'une manière un peu différente, peut-être.
Ah ben après, oui, ça dépend effectivement de la structure même de la propriété. Cela dit, quand on va dans Médoc, il y a deux exemples frappants et emblématiques qui sont Château Pompé-Canet, qui appartient à Monsieur Tesseron. C'est quand même un vignoble qui fait, je pense, on doit être pas loin, entre 80 et 90 hectares. C'est un cru classé du Médoc. Il est en biodynamie depuis plus d'une dizaine d'années. Et Château Palmer aussi, qui appartient, il y a plusieurs actionnaires, mais l'un des actionnaires, c'est la famille Tichel, et Alain Tichel est président de l'interprofession des vins de Bordeaux. Donc lui, c'est-à-dire que sa famille est actionnaire d'un cru classé, qui lui aussi a fait le choix de la biodynamie et qui, en l'année dernière, en 2018, une année très très dure au niveau du milieu, ça a été très très dur pour eux, mais ils n'ont pas démordu de la voie qu'ils avaient décidé de suivre. Donc ils ont fait des très petits rendements. J'ai pas goûté leur 2018 en primeur, il paraît que c'était extraordinaire. Mais voilà, ce sont deux exemples de grands crus classés du Médoc qui ont pris cette voie, et pourtant ce sont voilà, il y a des investisseurs derrière. Je pense au château Montrose aussi, qui appartient à la famille Bouygues, et qui est aussi au niveau environnemental est l'un de ceux qui donnent l'exemple aujourd'hui. Et de l'autre côté, si on va à Saint-Émilion, Château Angélus a aussi annoncé sa conversion au bio.
Je vais reprendre l'exemple de Palmer en 2018. On dit tous très bien, mais on dit oui, très bien, mais avec combien de rendement?
Sur un millésime comme 18, c'est sûr que ça a été dur. Après, il n'y a que des cas particuliers. Hein. Je pense qu'il y a certains châteaux qui étaient en bio, qui s'en sont retirés avec d'autres. Il y a eu des scénarios très différents en 2018 à Bordeaux. Vous savez que la pression au milieu, elle n'a pas eu qu'à Bordeaux. Hein. Il y a eu dans plein d'autres vignobles, vous le savez bien que moi, mais elle a été particulièrement difficile à gérer. Et quand on était en bio ou biodynamie, ben, il y avait vraiment beaucoup de paramètres à gérer. Alors, c'est sûr qu'à Palmer, cette année, les rendements ont été bas, mais ils ont quand même fait du vin et du très bon vin, justement.
Pour conclure, on pourrait dire que c'est peut-être cette phase qui a duré quand même assez longtemps, où on a beaucoup critiqué le vin de Bordeaux, bah, pour le consommateur, ce serait intéressant d'aller un peu plus loin et de voir que les choses ont bougé, sont en train de bouger, ont évolué, qu'il y a aussi des choses très intéressantes à trouver dans cette région, et que voilà, c'est devenu une mode, en fait, de dire du mal de Bordeaux sans forcément connaître, en fait, les vins de Bordeaux, et ce qui est le plus dommage.
C'est devenu une facilité, excuse-moi de t'interrompre.
Non, mais c'est ça.
Une facilité. Et comme toutes les facilités, un peu parfois, il faut les bousculer.
Il faut aller
un peu plus loin que cette vignette au-dessus.
Et comme disait Laurent en début d'émission, Bordeaux, c'est un petit peu tuer le père, hein, c'est un peu oedipien, c'est le père de tous les vins. Et donc, c'est un moyen pour les autres aussi de se faire mousser ou de s'incarner, c'est de dire bah, ils sont pas bien, il faut tuer le père, et on est nous-mêmes. Donc, ce qui est intéressant dans Bordeaux, c'est faut aller revoir les cavistes, faut aller revoir les bons rapports qualité-prix, faut s'entendre se faire plaisir avec un grand cru classé quand même, parce que ça le fait. Après, faut avoir la patience de l'attendre. Et puis encore une fois, là, on est en train de boire un liquoreux, et moi, je connais pas de meilleur liquoreux qu'un joli Sauterne de Bordeaux, parce que on a le côté liquoreux, on a la tension, on a plein de choses sympas.
Ouais,
et le sémillon.
Il y a du chenin aussi, il y a du chenin en liquoreux qui est très
oui,
bon.
Oui, on est d'accord, mais ça on en a déjà parlé, on parle de Bordeaux. Là. Et le sémillon est un cépage magnifique. Voilà.
Oui, absolument. Et c'est vrai qu'il faut le redire parce que les gens n'ont plus l'habitude de consommer des liqueurs, mais ce sont quand même des vins. Moi, tu parlais des émotions de dégustation. Ouais. Moi, l'une de mes plus belles émotions de dégustation, c'est d'un vieux Ikem. Ouais. Et là, on a une complexité qui se développe. Ouais. On trouve très rarement dans les autres vins.
Alors, le Clos Opéraguet, comme j'ai pas les moyens de ramener systématiquement un Ikem, on est juste à côté, on est juste en face. Le Clos Opéraguet, en 2011, on est là sur le dernier millésime de la famille Poli avant le rachat par Bernard Magrez. On est tout en haut de la colline de Beaume. Et le 2011, je trouve, il est juste génial. Moi, j'adore le Clos Opéraguet en 2011. Je trouve que c'est une superbe expression du liquoreux avec tout ce qui va bien en termes de sucrosité, de rondeur, etc. Et quand même de la tension. Et de voilà, c'est hyper. Ça reste 3 heures en bouche. J'adore ces vins-là.
Bah, c'est super de se régaler comme ça avec un liquoreux. Mais voilà, ça c'est une bonne réponse au Bordeaux bashing. Ouais. Après le Bordeaux bashing, je pense que ceux qui continuent à pratiquer ça, si tant est qu'il y en ait encore, ça devient un réflexe, pas devient, mais
c'est une facilité.
Il n'y a pas de raison de faire plus de Bordeaux bashing que d'autres, que sur d'autres régions viticoles, d'ailleurs. Quand on aime le vin, on doit s'autoriser à tout aimer, potentiellement. Enfin, c'est ce que je pense. Mais,
c'est ce qu'on pense aussi, et c'est ce qu'on a envie de défendre aussi, d'aller. Peut-être que c'est un vignoble.
Vous faites très bien, d'ailleurs.
C'est gentil, mais c'est un vignoble qui est un peu complexe, qui mérite aussi qu'on se penche aille creuser, quoi.
Ah oui, parce que tu parlais des classements, c'est vrai que Bordeaux, c'est pas toujours lisible. Il y a le classement 1855, il y a les crus classés de Saint-Émilion, il y a les crus bourgeois, il faut s'y retrouver, il faut naviguer dans tout ça. C'est un vignoble d'assemblage, contrairement par exemple à la Bourgogne où on a le Pinot et puis le Chardonnay, mais à Bordeaux, il y a beaucoup d'assemblages, il y a des choses différentes, il y a la rive droite, la rive gauche, c'est assez complexe.
Je pense que c'est une difficulté, c'est qu'il faut qu'ils reparlent un peu plus de terroir. Et ça, ils ont pas encore passé le cap. Je trouve, sur la com.
On parle de com des grandes maisons.
C'est intéressant. Et d'ailleurs, de toute façon, si on parle de plus en plus d'environnement, on sera tenu de parler de terroir.
Je pense que c'est ce qui va les mettre dans la vraie modernité, quoi. Même si ça y va tout doucement, ils parlent pas assez de terroir, quoi. On est encore un peu trop sur la marque.
Le Conseil des vins de Saint-Émilion a été l'une des premières ODG là à se faire passer dans son cahier des charges, dans son règlement, que tout vigneron adhérent devra être dans une démarche environnementale, je ne sais plus quel horizon. Alors, démarche environnementale, ça peut être bio, ça peut être Terravitis, ça peut être HVE. Il y a plein de. Aujourd'hui à Bordeaux, il y a plein de possibilités qui sont offertes parce que c'est vrai qu'on peut faire du bio à Bordeaux, on peut faire de la biodynamie. Je crois que la Nouvelle-Aquitaine, c'est le troisième territoire viticole en surface bio.
C'est ça.
Après la Languedoc et la PACA. Mais bon, les conditions climatiques et océaniques font que c'est parfois plus compliqué qu'ailleurs. Mais malgré tout, il y en a qui y arrivent très bien. Il y en a qui ne font pas du bio, il y en a qui suivent d'autres voies. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une prise de conscience environnementale. Ça, c'est certain. Et ça va de pair avec la reconnaissance de. C'est la meilleure mise en avant du terroir, parce que certains vignerons n'ont jamais cessé d'aimer leur terroir.
Bien sûr. J'ai une anecdote à ce sujet. Quand j'ai suivi ma formation à Suze-Larousse, là, en tant que sommelier conseil caviste.
Dans la Drôme, provençale.
On a eu le comité de l'interprofession qui nous a envoyé des vignerons, en tout cas des gens pour nous parler de Bordeaux, sur 2 journées. Ce qui était fantastique, avec des outils de promotion énormes, des jolis flyers, des jolies même bouclettes, etc. Des sommeliers, enfin plein de choses sympas. Et 2 journées absolument différentes. Et le premier jour, on était sur le Médoc, avec un mec d'un certain âge, très arrogant, la représentation absolue des grands crus de Bordeaux, qui ne donnait pas du tout envie de mieux connaître. Et puis d'un autre côté, une vigneronne de la rive droite qui était sur un domaine qui essayait d'être vertueux sur la tenue de la vigne, etc. Et qui nous a expliqué effectivement que elle souffrait énormément de l'image de Bordeaux parce que pour elle c'était ça. Enfin elle représentait Bordeaux, alors que les autres c'était vraiment que l'arbre qui cache la forêt. Mais il y a vraiment un truc à faire dans ce sens-là, c'est-à-dire de donner la parole à des vignerons qui sont authentiques, qui sont modestes et qui travaillent du mieux qu'ils peuvent sans se préoccuper de, enfin, en ayant une réalité des enjeux économiques assez différente de ce qu'on voit avec les grands crus, quoi.
Bien sûr, il y a plein de vigneronnes et de vignerons à qui il faut donner la parole parce que et ils en parleront encore 10 fois mieux que moi. Et tu vois, tout à l'heure, tu évoquais aussi les consultants et les œnologues. Alors évidemment, on cite tout de suite Michel Roland, mon devino oblige. Après, Michel Roland, il est souvent résumé à ce passage dans le film. Il est bien d'autres choses. Après, il y a d'autres techniciens comme Stéphane de Renoncourt qui a une autre approche. Et il y a une nouvelle génération qui arrive et qui pousse. Et je pense notamment à un jeune œnologue hyper talentueux qui s'appelle Thomas Duclos, si un jour vous avez l'occasion de l'interviewer. C'est un dégustateur impressionnant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait quelques soirées avec lui à l'aveugle. Il trouve des choses dingues. Et pas seulement du Bordeaux, hein. Il est fou de Bourgogne, il écoute plein de choses. C'est un passionné de terroir. C'est un gars extra qui incarne aujourd'hui cette nouvelle génération de Bordeaux qui bouscule un peu la donne et qui va, à mon avis, faire beaucoup de bien au profil des vins de Bordeaux, qui est déjà en train de faire beaucoup de bien au profil des vins de Bordeaux, sur des vins plus droits, plus digestes, plus élégants, plus frais. Je vous recommande, si vous avez l'occasion, de un jour l'interviewer. Là, ça va parler terroir, ça va parler vin, et c'est très intéressant.
Merci Mathieu Doumange pour ces conseils, pour cet échange très intéressant autour des vins de Bordeaux. On invite chacun à te lire sur les réseaux, puis évidemment dans Terre de Vin, un magazine qui paraît tous les 2 mois, c'est ça?
Voilà, on est trimestriel et on a plus 3 hors série, donc on a 9 numéros par an, et puis le site web terredevin.com et puis pas mal d'événements à Bordeaux, à Paris, à Lyon.
On aura peut-être l'occasion de se reparler, pour commenter les parutions des nouveaux numéros. Merci beaucoup, Mathieu.
Et pas forcément sur Bordeaux, d'ailleurs.
Et pas forcément sur Bordeaux, puisque dans Terre de Vin, on ne parle évidemment pas que de Bordeaux, mais de tout le vignoble français, et même bien au-delà. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt.
Merci à vous.
Merci, bonsoir.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Chers amis, on a une demi-seconde pour dire que ce Sauternes Château Opéraguet est une merveille.
Clos Opéraguet
est une merveille. Moi, j'ai l'impression d'avoir une mangue. Je peux dire que ça a un goût de fruits incroyable.
Oui, les fruits exotiques sont incroyables, super présents. De fruits exotiques. Ananas, Victoria.
C'est sucré sans t'écraser par le sucre. C'est d'une délicatesse infinie, ce truc. Moi, j'en bois jamais des liquoreux, donc lâchez-vous, vous qui aimez ça.
La complexité est juste superbe. Ouais, non, moi, j'adore. Bon. J'aime bien quand c'est un petit peu plus de tension encore, mais...
Tu cherches quand même l'acidité derrière le sucre.
Ouais, ouais, ouais. Faut
rajouter un zéro pour la tension.
Un zéro en termes de prix, d'accord. Merci beaucoup pour ces 2 petites émissions en terre bordelaise. On se retrouve très bientôt. Allez, salut. Ciao.